France Culture.
Les nuits de France Culture.
À propos de Jules Verne, Raymond Roussel affirmait péremptoire : c'est lui, et de beaucoup, le plus grand génie littéraire de tous les siècles. Si le documentaire que consacrait René Elkheim-Bollinger à Jules Verne en 2001 se gardait d'emboîter le pas à Raymond Roussel, il invitait les auditeurs de France Culture à voyager dans sa vie et son œuvre pour mieux comprendre pourquoi il était au début du XXIe siècle encore l'un des auteurs les plus lus dans le monde, pour mieux comprendre pourquoi, alors qu'il n'était plus l'écrivain de chevet des enfants et des adolescents, il était devenu un auteur que bon nombre de ses lecteurs découvraient à l'âge adulte, donnant ainsi raison à Raymond Roussel, qui jugeait monstrueux de faire lire ses voyages extraordinaires aux enfants. En compagnie de Agnès Marcetto, du musée Jules Verne de Nantes, de Christian Schellbourg, auteur de plusieurs ouvrages sur Jules Verne, de Jean-Paul Dekis, directeur du Centre international Jules Verne et auteur de Jules Verne l'Enchanteur, en compagnie aussi d'écoliers amiénois, cette émission visitait les multiples dimensions de l'œuvre de Jules Verne. Une curiosité dans ce documentaire, Jean Gabin prêtant sa voix au capitaine Nemo pour un livre-disque Disney en 1955. Une vie, une œuvre, Jules Verne, première diffusion le 12 août 2001 sur France Culture.
Ah, jeunes gens, voyagez si vous le pouvez. Et si vous ne le pouvez pas, voyagez quand même. Jules Verne, l'école des Robinson.
Je vais poser une question. Phileas Fogg et Passepartout, il n'y a qu'eux qui ont fait le tour du monde en 81 jours ou des autres aussi?
Il avait imaginé beaucoup de trucs volants, des skates volants, des voitures volants.
Pourquoi les parents de Jules Verne le forçaient-ils pour être avocat?
Il a pris combien de temps pour faire 80 jours en ballon 80 jours, 80 jours en ballon.
Faire lire Jules Verne aux enfants, c'est monstrueux, dira Raymond Roussel. Pourtant, à Nantes, Aurélie et Aloïs ont dévoré les Indes noires, l'île mystérieuse et d'autres voyages extraordinaires. À Amiens, pour certains enfants de l'école Edmond Rostand, le Nautilus est une sorte de poisson pour faire peur aux pêcheurs. Alors, quelle lecture de Jules Verne font-ils entre 9 et 13 ans au XXIe siècle? Sur les murs du musée Jules Verne, à Nantes, on peut lire cette devise « La liberté, la musique et la mer ». La liberté, ce serait le sentiment de l'appareillage, disait Julien Gracq récemment dans un entretien lumineux avec Jean-Paul Dekis. L'appareillage plutôt que la destination. Partir alors, mais les yeux bien ouverts, comme Michel Strogoff devant le poignard brûlant. Regarde de tous tes yeux, regarde. La musique, un plaisir de famille, disait-on, et ce serait peut-être une musique des sphères, ou bien les bruits sourds du volcan, la montagne qui résonne et ronfle comme une chaudière bouillante. La mer, ce serait Nantes, ce serait Victor Hugo, ce serait le capitaine Nemo, mobilis in mobile, ce serait l'île, parce que le monde est une île et toute île est un monde, écrira Michel Serres dans Jouvence sur Jules Verne. Nantes, Paris, Amiens, on entendra les voix des lecteurs de Jules Verne. À Amiens, Jean-Paul Dekis, directeur du centre Jules Verne, et les enfants de l'école Edmond Rostand. À Paris, Christian Schellbourg, auteur de Jules Verne, L'œil et le ventre. À Nantes, Aloïs et Aurélie, Agnès Marcetto du musée Jules Verne et Paul-Louis Rossi. Paul-Louis Rossi a intitulé l'un des chapitres de son livre « La voyageuse immortelle, une ville flottante ». Et il cite ce passage de Jules Verne. « Ce sillage est vraiment magnifique. On croirait que les ondulations se plaisent à y tracer des lettres. Voyez, des L, des E. Est-ce que je me trompe ? Non, ce sont bien des lettres, toujours les mêmes. » Paul-Louis Rossi.
Oui, c'est un livre, il me semble, qui a dû être édité vers 1871. Et il se trouve que j'ai une édition qui est presque d'origine, qui est une édition populaire d'ailleurs, mais qui est presque d'origine. Je ne pourrais pas la dater exactement, mais c'est très proche, quoi. C'est dans les années 1870. Et comment dirais-je, c'est un livre que j'avais depuis très très longtemps et qu'en fait j'ai lu très très tardivement. Et je pense que je l'ai lu parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'Ouest surnaturel ». Et j'avais besoin, en quelque sorte, du mouvement des Européens de langue française qui sont allés vers le Nord-Ouest. Et j'ai donc lu très très attentivement le volume où il y a une ville flottante et les forceurs de blocus, je crois. Et alors, si vous voulez... J'ai fait l'analogie d'une ville flottante avec l'histoire de la ville de Nantes. Parce que la ville de Nantes, en quelque sorte, vous savez, on dit que ça a été le plus grand port de l'Europe au XVIIe et XVIIIe siècle. Et il n'y a plus un seul bateau dans le port, ce qui est terrible. Et tous les entrepôts de fabrication des bateaux sont en destruction. Et on a l'impression que la ville a glissé vers l'aval, vers le port de Saint-Nazaire. Donc, je me suis servi de cette histoire comme d'une métaphore de l'idée de Jules Verne qui est d'envoyer, d'ailleurs c'est d'un port de l'Angleterre vers les États-Unis, une véritable ville flottante qui en quelque sorte relierait l'ancien continent au nouveau. Et il y avait même des projets qu'il avait mis en œuvre du point de vue littéraire à l'époque de faire une canalisation qui ferait une sorte de métro qui irait de l'Europe à l'Amérique. Alors j'ai été intéressé par cette histoire et j'ai, dans cette métaphore qu'il y a sur, je crois, sur les eaux qui ressemblent à des lettres, il y a quand même chez lui, on voit tout à coup se profiler quelque chose de très sympathique au fond, qui est son goût de la littérature, puisqu'il voit dans les signes de la mer des lettres. Et il est très obsédé, quand on regarde de près ce qu'il a écrit, il est très obsédé par les lettres. Il y a presque toujours des jeux de mots dans les noms propres, il y a beaucoup d'anagrammes, enfin, etc. Donc il est intéressé, on voit que c'est un homme qui est intéressé par l'écriture, si vous voulez.
Au jour naissant, les hauteurs de cette presqu'île très abrupte, très déchiquetée, apparurent entre les brumes de l'aube que ne tardèrent pas à dissiper les dernières fureurs de la tempête. Un morne, très à pic du côté de la mer, formait l'arête du cap et se rattachait par un fait aigu à l'ossature de la presqu'île. Au pied du morne s'étendait un lit de roches noirâtres, pour la plupart immergées à marée haute, alors découvertes, le jusant étant au plus bas, et toute visqueuse des goémons et des varechs qui les tapissaient. Quelques plaques de sable blanc mettaient de grandes taches jaunes entre les récifs. Un sable lisse et humide encore, prodigieusement constellé de ses coquilles, térébratules, fissurelles, patelles, tritons, licornes, oscabrillons, mactres, vénus, si abondantes sur les plages magellaniques. En Magellanie,
Paul-Louis Rossi, vous êtes nantais, et Nantes, c'est une ville d'îles.
Oui, c'est très étrange. Enfin, c'est une ville terrible, puisque il y a trois ou quatre cours d'eau qui arrivaient à Nantes, et il y avait huit bras de Loire, je crois. On disait que c'était la Venise de l'Ouest, quoi. Elle était encombrée de ponts, d'ailleurs. C'est pour ça que la circulation vient seulement de se régler. Avant, c'était infernal, puisqu'on avait des circulations qui ne correspondaient pas à la géographie de la ville.
Je suis en train de rechercher le passage donc dans La Voyageuse immortelle. Vous parlez de la fugue de Jules Verne. Vous y revenez à plusieurs reprises, à cette fugue sur un bateau. Il s'est engagé comme mousse.
Oui, alors il faut dire d'abord qu'il est né au fond à l'angle de la, à ce qu'on dit, hein, parce que beaucoup de choses demandent d'être vérifiées très très soigneusement, et moi je ne suis pas un scientifique, si vous voulez. Il est né à l'angle de la rue Kervégan et de la rue Olivier de Clisson. Alors c'est à quelques mètres de ce qu'on appelle le quai de la Petite Hollande. Et il y avait une raison, c'est que le port de mer venait jusqu'au quai de la Petite Hollande. Et en fait, les Hollandais étaient implantés dans la ville. Il y avait des commerces de Hollandais depuis très longtemps. Il y avait le commerce du sel, par exemple. Et même les Vikings venaient prendre le sel dans Guérande et dans la côte sud de la Loire, là, dans ce qu'on appelle le Marais breton. Et donc, il est évident que tout enfant, il a vu les ponts, le port et l'eau. Alors, on prétend qu'il s'est embarqué comme mousse sur la Coralie à 8 ans et que son père l'a repêché à la pointe sud de l'estuaire de la Loire, qu'on appelle Pimbron ou Penbro en breton. Alors, il y a une thèse qui dit que c'est une légende.
Fils d'un père à demi parisien et d'une mère tout à fait bretonne, j'ai vécu dans le mouvement maritime d'une grande ville de commerce. En ce temps-là, nous n'avions que les lourds bâtiments à voile de la marine marchande. En imagination, je grimpais dans leur hauban, je me hissais à leur une, je me cramponnais à la pomme de leur mât. Quel désir j'avais de franchir la planche tremblotante qui les rattachait au quai et de mettre le pied sur leur pont. Me voilà sur le pont. Ma main saisit une drisse et la fait glisser dans sa poulie. Quelle joie! Les panneaux de la cale sont ouverts. Je me penche sur cet abîme. Les odeurs fortes qui s'en dégagent me montent à la tête. Ces odeurs, où l'âcre émanation du goudron se mélange au parfum des épices. Jules Verne.
En 1981, mes oncles Florindo et Francesco ont fait le voyage de Bassano del Grappa jusqu'à Nantes. Je les emmenais voir le musée sur la colline. Ils n'avaient jamais entendu parler de Jules Verne, ne connaissaient ni le capitaine Nemo, ni Robur le Conquérant, ni le château des Carpates. Ils regardaient toute cette imagerie futuriste comme des gens de la République de Venise qui sont allés parfois jusqu'en Autriche, à Trieste, en Suisse, en Albanie ou en Grèce, et qui ne s'étonnent de rien. Il y avait des parfums de camélia et de tabac sur la colline, et des magnoliers qui sentaient la badiane et le poivre. Paul-Louis Rossi, La Voyageuse immortelle.
Il y avait deux odeurs, au fond, fondamentales pour moi. Il y avait l'odeur du savon, tout le quartier, n'est-ce pas, voyez-vous, tout le quartier, justement autour de cette grande île là que nous avons sous les yeux, autour de la place de la République, c'était une odeur de savon, parce qu'il y avait des savonneries. Et c'était pas une odeur toujours très agréable, mais moi j'avais l'odeur dans le quartier où j'habitais, qui se trouvait entre la route de Sainte-Luce et les grandes usines de locomotives des Batignolles. Et là, c'était l'odeur du chocolat, parce qu'il y avait des chocolateries. Alors, on sentait très très bien l'odeur du chocolat. l'odeur du cacao. Et je me rappelle même qu'on transportait les sacs de cacao, même à voiture à cheval, n'est-ce pas, ou à camion qui roulait très très lentement, parce qu'ils étaient très chargés, et que quand on était gamin, on donnait un coup dans le couteau dans les sacs de cacao pour prendre du cacao.
Il y avait les odeurs des fleurs tropicales à Nantes.
Oui, oui, il y a aussi ces odeurs. C'est très étrange parce que quand je dis aux gens, par exemple, que les camélias sentent, ils sont très, très étonnés. Ils ne savent pas qu'il y a des camélias odorants, même très odorants. Au Japon, par exemple, il y a des camélias très, très odorants. Et en fait, il y avait comme quelque chose d'une odeur sourde, un peu sourde, comme ça, je dirais, voyez-vous. Par exemple, il y avait cette odeur très étrange de ce qu'on appelle le noyer d'Amérique.
Agnès Marcetto, ça c'est le buste de Jules Verne. Il y a un grand arbre à côté, hein, qu'est-ce que c'est ?
Donc c'est un magnolia, introduit en France par les Nantais, et qui effectivement sert de toile de fond à cette statue de Jules Verne, érigée là quelques années après sa mort, pour lui rendre hommage.
Et là, comment est la statue ? En fait, c'est Jules Verne, c'est un buste, mais il y a un couple en bas.
Voilà, donc c'est une statue très, très vernienne et même très hetzelienne, puisque c'est une maman qui est en train de lire les œuvres de Jules Verne avec son petit garçon. Et en arrière-plan, le sculpteur a figuré quelques-uns des moyens de locomotion.
Alors on voit un train
et
un ballon.
Voilà. Et en fait, on peut penser plus précisément à deux romans de Jules Verne. Le train, surtout sur le pont, c'est Le Tour du Monde en 80 jours. C'est le moment où le train va passer très, 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 très vite avant que le pont ne s'effondre. Et puis, le ballon, c'est le ballon très emblématique de l'œuvre de Jules Verne, puisque c'est celui qui permet de traverser en 5 semaines l'Afrique. Dans 5 semaines en ballon, le premier voyage extraordinaire.
On est à Nantes et on est dans le jardin. Il s'appelle comment le jardin ?
Aujourd'hui, le jardin des plantes, qui est l'héritier direct du jardin des apothicaires.
Mais qui est ancien ?
Absolument. Il y a un jardin des apothicaires à Nantes depuis le XVIIe siècle. Parce que les Nantais ont toujours été des grands voyageurs. Ils partaient du port de Nantes et que, rapportant des essences exotiques de leur voyage, ils ont développé une véritable spécialisation en la matière.
Se disait poussé plutôt qu'attiré dans ses voyages. Il parcourait le monde semblable à une locomotive qui ne se dirige pas, mais que la route dirige. Je ne poursuis pas mon chemin, disait-il souvent, c'est mon chemin qui me poursuit. Ça, vous avez choisi de le mettre en exergue à votre livre, Christian Schellbourg. Pourquoi ?
Parce que c'est une formule qui est très révélatrice du rapport du voyageur au voyage chez Jules Verne. C'est une formule qui est dans 5 semaines en ballon, qui concerne donc le premier des grands voyageurs verniens, Samuel Ferguson, hein, puisque 5 semaines, c'est le premier des voyages extraordinaires. Alors, en fait, cette formule révèle bien un des paradoxes du voyage vernien, c'est que au bout du compte, le voyageur part moins pour découvrir une contrée que pour la reconnaître au sens étymologique du terme. C'est-à-dire qu'il la connaît déjà, plus précisément, il la connaît sur la carte. Il en connaît la latitude et la longitude. Et voyager dans l'univers vernien, c'est avant tout être capable, en tout cas pour les grands voyages qu'on pourrait qualifier de voyages précisément de découverte, les voyages au pôle, les voyages en Afrique, il s'agit en fait d'aller là où la carte nous dit qu'il existe quelque chose, mais que cette chose-là, on ne la connaît pas, on ne l'a jamais mise sous nos yeux, ou plutôt on l'a connaît, mais on ne l'a jamais, à proprement parler, vu. Et donc, il faut faire coïncider la connaissance cartographique à la vision du voyageur. C'est pour cela, par exemple, que une intrigue comme 5 semaines en ballon est possible. Parce que, précisément, 5 semaines en ballon, c'est en fait un gigantesque tour de passe-passe. C'est que on va voir des pays, mais que ces pays-là, on ne va pas les voir au sens héroïque où pouvaient les voir les explorateurs de l'époque, c'est-à-dire en voyageant justement sur Terre. On va survoler parce qu'en quelque sorte, ça suffit dans l'univers vernien. L'essentiel, c'est d'avoir été au point où se croisent la longitude et la latitude, ou d'avoir parcouru une latitude ou parcouru une longitude, peu importe. Mais il s'agit très précisément d'obéir à une logique qui est moins une logique de voyage à proprement parler qu'une logique cartographique. Il s'agit de mettre un œil sur un point qui, lui, est fondamentalement sur la carte.
Est-ce qu'on rêve sur ces cartes ?
Ah oui, on rêve beaucoup sur les cartes chez Jules Verne. Bah, notamment, il y a toujours dans 5 semaines en ballon ce passage très amusant où on suit le voyage avant de le faire sur la carte et où l'un des personnages, au moment où on arrive à un lac, dit « Ah, j'ai failli tomber dans le lac ». Véritablement, c'est la carte qui est le support de la rêverie. Plus que toute autre chose, pratiquement.
Et quelles sont ces sources cartographiques et géographiques ? On les connaît ?
Alors, on les connaît relativement bien. On sait qu'il était abonné en particulier à la revue Le Tour du Monde et il suffit de compulser la revue pour voir se préfigurer un grand nombre des descriptions qu'on verra ensuite dans les voyages. Évidemment, il y a des endroits qui posent beaucoup plus de problèmes. Ce sont des endroits finalement plus intéressants, qui sont des endroits qu'on ne connaît pas à l'époque. Les sources du Nil, par exemple, au moment où il écrit 5 semaines en ballon, on ne sait pas où sont les sources du Nil, il va à peu près les situer et à peu près imaginer à quoi ça peut ressembler. Par contre, il y a les pôles. Alors là, bon, pour les pôles, on va entrer dans une logique qui est une logique de fantasmagorie, presque. En tout cas, pour ce qui est du pôle sud, dans le Sphinx des Glaces, où sa source, ça va être les aventures d'Arthur Gordon Pym, on peut pas moins géographique comme source, hein. Mais également pour les voyages et aventures du capitaine Hatteras, où là il s'agit de décrire le pôle Nord et où Verne va construire autour de ce pôle Nord une rêverie en partant de descriptions qui ont été faites par certains voyageurs arctiques qui croyaient avoir vu une mer libre à l'horizon. En fait, bon, on sait maintenant que c'était très probablement des effets d'optique liés à la neige et Verne, à partir de ça, va imaginer une logique qui est une logique tout à fait hellénique. C'est que à un moment la glace s'arrête, on a un océan et au centre de l'océan un volcan, comme si c'était ce volcan qui à lui tout seul en quelque sorte arrivait à faire fondre toute cette glace et arrivait à faire du pôle un lieu privilégié qui était un lieu merveilleux où notamment les oiseaux sont à profusion. Et là véritablement on est dans des rêveries qui partent de la carte, on sait où est le pôle, il s'agit de mettre du paysage sur ce pôle, et ce paysage-là, Verne va le concevoir à partir d'une imagination qui est une imagination volontiers tournée vers le feu et le volcan, hein, d'où probablement le volcan au pôle. Il faut savoir que dans l'imaginaire vernien, il y a un lien de consubstantialité pratiquement qui est établi entre le savant et le volcan, tous les deux se définissant par le fait qu'ils sont cyclopes, c'est-à-dire qu'ils sont cuclosops, qu'ils sont œil rond, œil qui tourne en rond. Hein, le volcan est un œil rond, le savant est un œil qui tourne en rond autour du globe, et donc ils sont appelés à se rencontrer. Ce qui fait qu'en quelque sorte, la destination du savant, c'est toujours peu ou prou. Pas systématiquement, mais très souvent, un volcan. Évidemment, c'est le cas d'Hatteras. Lorsqu'on ne sait pas ce qu'il y a au bout du voyage, eh bien, on va assez naturellement y mettre un volcan.
Cette terre que nous foulons, c'est la terre du pôle. Cette mer que nous avons traversée, c'est la mer du pôle. Cette air que nous respirons, c'est l'air du pôle. Ah, oh, le pôle Nord. Le
pôle Nord.
Les voyages et aventures du capitaine Hatteras.
Descends dans le cratère du Yocul de Sneffels, que l'ombre du Scartaris vient caresser avant les calendes de juillet, voyageur audacieux, et tu parviendras au centre de la terre. Ce que j'ai fait, Arne Saknussemm, voyage au centre de la terre.
Pour moi, les héros de Jules Verne représentent exemplairement ce que Spengler appelle la civilisation faustienne, explique Julien Gracq dans son entretien avec Jean-Paul de Kiss.
Alors, la civilisation faustienne, elle est donc, c'est celle du héros conquérant, c'est celle du drame romantique, c'est celle de la rencontre de ce monde romantique avec l'époque qui entame ce que Marcel Gauchet appelle la période de la sortie des religions, qui est datée du début du 19e jusqu'à la fin du 20e siècle. Et j'ai le sentiment que quand Julien Gracq utilise ce terme, il embrasse largement cette période, à l'intérieur de laquelle il reconnaît différentes époques, et je dirais principalement pour celle qui la concerne lui, la fin du 19e siècle, l'époque victorienne, et le 20e siècle, dont il distingue le début de la deuxième partie, en parlant par exemple de Marcel Proust et de la place de Marcel Proust dans la perception de l'évolution des sociétés. Donc, Jules Verne embrasse, ça c'est certain, cette même période, c'est-à-dire que si on considère que les voyages extraordinaires sont un cycle complet parlant des conquêtes de la deuxième moitié du 19e siècle, c'est-à-dire de la bourgeoisie industrielle, de l'essor scientifique, etc., c'est l'homme, l'individu, qui est placé dans ce contexte, et les héros de Jules Verne, ces grands personnages dont parle Julien Gracq à cette occasion, principalement à l'occasion du capitaine Hatteras, qui est le héros du deuxième roman de Jules Verne, mais son premier grand héros, qui donnera naissance par la suite au capitaine Nemo, à Mathias Sandorff et au Coger, qui sont les grands personnages emblématiques, avec le Robur le Conquérant, et qui marque précisément ce phénomène de la place de l'individu dans ce qu'est en train de devenir la société. Et Jules Verne va même très loin, puisque les 10 derniers romans de Jules Verne parlent du rôle de l'argent et de la bourse et du capital dans l'évolution de l'humanité.
Donc c'est les conquérants, enfin, c'est la notion de conquête, la notion de domination aussi.
C'est la notion de conquête et de domination, mais abordée sous l'angle de du romantisme, c'est-à-dire que une grande part de romantisme chez Jules Verne, un positivisme dans la première partie de ses romans, c'est-à-dire les 30 premiers, grosso modo, et les 30 suivants qui sont consacrés à démonter le processus positiviste. Donc Jules Verne toute la deuxième partie de son œuvre est presque autocritique par rapport à la première, tout en développant très précisément les mêmes thématiques.
5 semaines en ballon. Voyage et aventure du capitaine Hatteras. Voyage au centre de la Terre.
César Cascabel.
Les enfants du capitaine. Lystrès
Branican.
20 000 lieues sous les
Claudius Bombarnac.
Autour de la Lune.
Tibonon.
Une ville flottante.
Le Sphinx des Glaces.
Aventure de 3 Russes et de 3 Anglais.
Aventure de Maître Antifer.
Le pays des fourrures.
L'île.
Le tour du monde en 80 jours.
Un drame en Livonie.
Michel Strogoff.
Face au drapeau.
Hector Servadac.
Clovis
Les Indes Noires. Un capitaine.
Le village aérien.
Les tribulations d'un Chinois en Chine. Les 500 millions de la.
L'agence Thomson & Co.
La maison à vapeur.
Le testament d'un excentrique.
L'école des Robinson.
le superbe Orénope,
Caravane le Têtu,
les l'archipel en Jonathan en Magellanie,
l'étoile du Sud,
le secret Mathias de Zemstoritz,
le château des Carpates, Robur le Conquérant,
les histoires de Jean-Marie,
un billet de loterie, Nord
bourse de voyage,
le chemin de France,
le volcan d'or,
famille sans
pilote, Danus.
D'abord, juste une précision, c'est 62 romans et 18 nouvelles qui font l'ouvrage extraordinaire. Donc, Jules Verne, pendant 15 ans, travaille au théâtre, écrit des pièces de théâtre. Et puis, quand il arrive à la littérature, avec son premier roman, coïncide avec le retour d'exil de deux militants républicains, que sont l'éditeur Pierre-Juliette Zelle, et un ami à lui, Jean Massé, qui, quelques années plus tard, fondera la Ligue de l'Enseignement. Et donc, ce sont deux militants républicains, mais aussi deux militants de l'instruction publique, je dirais. C'est-à-dire, à travers l'édition, à travers leur militantisme pour les lois Jules Ferry, etc. Donc, la rencontre de Jules Verne écrivant ce premier roman tout à fait hors du commun, puisqu'il s'agit de survoler l'Afrique en ballon, c'est quand même un thème qui apparaît tout de suite, tout à fait nouveau à ces deux éditeurs. C'est bien écrit, le succès est immédiat en librairie, et donc Pierre-Juliette Zelle considère que Jules Verne va devoir consacrer son existence à ça, parce que lui a un vrai projet éditorial. Il se dit, je tiens un auteur, je tiens à ce qu'il continue dans cette voie qu'on appellera le roman scientifique. Jules Verne, donc, quand il commence à écrire, va pas supporter Paris, va trouver que la vie parisienne de théâtre noctambule qu'il menait jusque-là ne coïncide plus à cette nouvelle phase de son existence, et il vient se retirer en baie de Somme, en Picardie, donc dans le petit village du Crotoy, où il continue à écrire pour prendre des notes pour ses prochains romans dès 1865, c'est-à-dire dès Le voyage au centre de la Terre, donc son troisième roman. Il a pratiquement quitté Paris, même s'il habite encore officiellement à Paris. Il séjourne beaucoup au Crotoy et il s'installera définitivement en Picardie au moment où il se met à écrire, avoir le projet de faire 20 milieux sous les mers. Il achète un petit bateau et c'est au cours de ses navigations sur les côtes picardes qu'il imagine le personnage du capitaine Nemo, qu'il écrit quand même sur plusieurs années.
Messieurs, notre déjeuner nous attend. Vous devez être affamés. Si vous voulez me suivre, nous passerons à table.
À vos ordres, capitaine. Mais de quel nom dois-je vous appeler ?
Pour vous et vos compagnons, professeur, je suis le capitaine Nemo. Et maintenant, monsieur le professeur, si vous voulez visiter le Nautilus, je suis à vos ordres.
J'ai suivi le capitaine Nemo à travers les coursives du navire qui mènent à la chambre des machines.
Les dégagements de gaz que vous percevez sont produits par l'emploi du sodium grâce auquel je produis l'électricité qui éclaire, chauffe et anime le Nautilus. Comme vous le savez, l'eau de mer est composée en grande partie de ce sodium. J'ai donc à ma disposition une réserve inépuisable d'énergie.
Ensuite, après la guerre de 70, il vient s'installer à Amiens. Donc il quitte la côte Picarde pour venir à Amiens. Et ça va coïncider avec un autre roman, un grand roman, qui est Le Tour du Monde en 80 jours, qui est le grand succès de Jules Verne. C'est le roman le plus populaire encore aujourd'hui, qui donne encore aujourd'hui à travers le monde plusieurs adaptations au théâtre annuellement. Donc c'est quand même un thème qui ne nous a pas quitté, Le Tour du Monde en 80 jours, qui correspond à son installation à Amiens. Et ensuite, quand il quitte sa première maison à Amiens pour cette grande maison dans laquelle nous sommes aujourd'hui, cet hôtel particulier correspond à un nouveau grand roman qui est Mathias Sandorf. Et à chaque fois, il fait évoluer le personnage héroïque par rapport au moment historique dans lequel il se situe. Donc, ces personnages qui correspondent et ces romans qui correspondent à des mutations dans sa propre existence correspondent à des mutations d'âge, mais en même temps à des points de vue qui avancent sur la position du héros, vraiment dans tout le sens du terme grec, du héros, donc ce médiateur entre l'au-delà humain et la réalité. Et ensuite, quand il rejoint de nouveau la maison qu'il a habitée avant ce grand hôtel particulier, il retourne pour 5 ans et il meurt dans cette autre maison qu'il avait habitée auparavant pendant 10 ans ici à Amiens. Et il écrit En Magellanie, qui est son dernier grand personnage. Entre-temps, il y a un autre personnage qu'on peut considérer comme important, qui est Robur le Conquérant, la conquête de l'espace aérien. Quant à moi, je le mets pas au même niveau parce que Robur le Conquérant est un personnage négatif. C'est-à-dire que c'est, parmi les héros, c'est le seul que Jules Verne écrit en creux. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas moins positif d'une manière construite que les autres, mais c'est le anti-héros. Robur est un anti-héros, il n'est que négatif.
Michel Strogoff avait marché sur Ivan Ogareff. Les soldats l'arrêtèrent. L'émir fit alors un geste devant lequel se courba toute la foule. Puis, il désigna de la main le Coran qui lui fut apporté. Il ouvrit le livre sacré et posa son doigt sur une des pages. C'était le hasard, ou plutôt dans la pensée de ces orientaux, Dieu même, qui allait décider du sort de Michel Strogoff. Les peuples de l'Asie centrale donnent le nom de Fal à cette pratique. Après avoir interprété le sens du verset touché par le doigt du juge, ils appliquent la sentence, quelle qu'elle soit. L'émir avait laissé son doigt appuyé sur la page du Coran. Le chef des oulémas, s'approchant alors, lut à haute voix un verset qui se terminait par ces mots « Et il ne verra plus les choses de la terre. » Espion russe, dit Féofar Khan, tu es venu pour voir ce qui se passe au camp tartare. Regarde donc de tous tes yeux. Regarde. Michel Strogoff.
Le premier soin de Cyrus Smith fut de reconnaître sur quel point précis se développait la façade de Granite House. Il se rendit sur la grève, au pied de l'énorme muraille, et comme le pic échappé des mains du reporter avait dû tomber perpendiculairement, il suffisait de retrouver ce pic pour reconnaître l'endroit où le trou avait été percé dans le granit. L'île mystérieuse.
Voir, c'est savoir.
Voir, c'est savoir.
Christian Chalbourg.
Savoir, c'est voir aussi, puisque, en quelque sorte, il faut systématiquement aller à la rencontre d'un espace concret. On a toujours, comme on part d'un espace abstrait, celui de la carte, il faut toujours mettre du concret. Alors, effectivement, voir, c'est savoir, et avoir vu, c'est aussi savoir au sens où on n'a plus besoin d'y retourner. C'est le cas, par exemple, dans Les Enfants du Capitaine Grant, où il y a une île à un endroit, et Paganel dit, bon, bah, celle-là, on l'a déjà explorée, ça n'est pas la peine d'y retourner. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est le premier regard. Il y a, en quelque sorte, une véritable idéalisation chez Verne de ce premier regard, bon, qui, évidemment, participe de toute la grande aventure des explorateurs de l'époque, hein, en ce sens.
Voir est une science.
Alors, voir est une science, c'est une formule de Paganel dans Les Enfants du Capitaine Grant. Hein. On peut même dire que chez Verne, en quelque sorte, voir est la science. Et ça provoque la récurrence d'un phénomène, c'est que l'ensemble des savants verniens sont dotés d'une vue spéciale. Ils ont toujours soit des lunettes énormes, soit une particularité optique, comme par exemple Paganel qui est nyctalope. Hein. C'est-à-dire que le savant se remarque dans le texte vernien par la puissance de ses lunettes ou la puissance de sa vision. Il peut être relayé en cela. Par exemple, dans 5 semaines en ballon, ça n'est pas Ferguson qui a une vision exceptionnelle, mais il va évidemment emmener son domestique qui, lui, est capable de voir les lunes de Jupiter à l'œil nu. Alors, bon, comme Kepler nous est-il dit. Effectivement, quelqu'un qui a une acuité visuelle intellectuel à ce point-là a toute sa place dans l'aventure scientifique. Parce que le savant, fondamentalement, c'est un œil.
Polyphème et forgeron aussi.
Alors Polyphème et forgeron et la forge occupe chez Verne une place tout à fait capitale, dont témoigne la fabrication du Nautilus, hein, qui est fabriqué dans toute une série d'aciéries et de grandes forges disséminées dans l'Europe entière. On peut dire que l'image de la forge est, chez Verne, une des images fondamentales de la puissance de la science. On l'a notamment de façon très visible dans les 500 millions de l'abbé Gaume, hein, avec cette forge monstre, immense fabrique de canons qui est fondée par Herr Schulze pour le pire. Hein, mais la science aussi est capable de cela. Elle est même assez souvent capable du pire chez Verne. Et en fait, le savant est fondamentalement, enfin plutôt, le sommet de la science, plutôt le sommet de la technologie, c'est la forge. De même que, et ça c'est un des autres attributs de Polyphème, hein, les cyclopes ont forgé la foudre de Zeus, et cela va générer chez Verne tout l'imaginaire de l'électricité, hein, qui est quelque chose de tout à fait capital chez lui. L'électricité, c'est vraiment le moteur du monde. En fait, on peut dire que cette image centrale de Polyphème, hein, du cyclope comme modèle du savant cyclope qui tourne autour du globe, produit dans son œuvre deux grandes particularités des savants. D'une part, le fait que technologiquement, ils vont évoluer vers la forge, c'est le cas aussi dans mystérieuse, on va être capable de fabriquer une forge de toute pièce, et puis aussi le fait que ces savants sont volontiers des artilleurs, même lorsque ils ne sont pas eux-mêmes des fabricants de canons comme Herr Schulze, ce sont volontiers des artilleurs, et tout cela en fait remonte, hein, à la mythologie de Polyphème comme ayant fabriqué la foudre de Zeus, le canon étant une des images de cette foudre divine.
Alors l'électricité, parlons de l'électricité, c'est étrange parce que ça ne se voit pas.
Ça ne se voit pas, l'électricité, non, mais par contre ça agit très très bien parce que l'électricité est en fait le moteur. Chez Verne, c'est pratiquement un joker technique, hein, c'est-à-dire qu'il suffit d'expliquer qu'il y a des gigantesques dynamos et votre appareil, à partir de là, est capable d'une puissance infinie. C'est-à-dire que l'électricité, bah, c'est la fée électricité à l'époque. Je dirais que même sans en arriver à essayer d'en faire un élément de féerie, ce que ça n'est pas à proprement parler dans son œuvre, l'électricité, c'est véritablement la solution à tout. C'est la solution au moteur parfait, en quelque sorte, hein, au moteur à la fois d'une puissance infinie et d'une durée de vie infinie, à partir de machines qui existent. Parce que ça, il faut jamais le perdre de vue. Verne n'imagine pas de toute pièce des machines. Il prend des machines qui existe, il met un moteur électrique dessus et à partir de là, elle prend une puissance qui est une puissance proprement imaginaire.
Oui, mais dans Le Maître du Monde, cette machine, elle n'existe pas puisqu'elle réunit en elle toutes les machines, donc elle est complètement imaginaire.
Alors effectivement, mais elle est imaginaire, mais elle s'appelle l'épouvante. Et c'est pas par hasard qu'elle s'appelle l'épouvante. Là, c'est la peur, c'est le pessimisme foncier de Verne à l'égard du progrès. Verne n'est pas du tout quelqu'un de positiviste. C'est quelqu'un qui craint par-dessus tout le pouvoir des savants. Il suffit par exemple de se référer à Maître du Monde, hein, où Robure devient complètement ivre de sa puissance, hein, complètement prêt à devenir un tyran planétaire pratiquement. Il y a un autre roman auquel je ne peux pas ne pas penser parce qu'il va tout à fait dans ce sens-là, c'est Sans Dessus Dessous, où les artilleurs du Gun Club, ceux qui ont envoyé le boulet dans la Lune, d'un coup sont pris de l'envie d'exploiter les mines aurifères qui sont censées être sous le pôle, et donc ils décident de redresser l'axe de la Terre à l'aide d'un gigantesque coup de canon qui permettrait de redresser l'écliptique de façon à ce que les glaces fondent. Verne, c'est quelqu'un qui a peur du progrès. Ça n'est pas du tout quelqu'un qui s'enivre du progrès. Ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder très présent à l'esprit. Maintenant, ça ne l'empêche pas de rêver. Alors, pour ce qui est de l'épouvante, pour revenir à ce que vous me disiez tout de suite, l'épouvante, c'est à la fois une machine complètement imaginaire, mais évidemment, vous avez bien vu que c'est aussi une machine qui regroupe les différentes machines qu'il a mises en scène. C'est-à-dire que c'est une chimère qui est une chimère proprement vernienne. Elle représente toutes les machines verniennes de manière. Alors, c'est à la fois un avion, un bateau, un sous-marin et une automobile. Effectivement, c'est vrai que c'est utile de le dire. En fait, ça regroupe toutes les machines verniennes de manière à montrer que ça tire en quelque sorte la philosophie de l'ensemble de la mécanique vernienne.
L'albatros, semblable à un gigantesque scarabée, allait doucement au-dessus de la grande ville. Il parcourut la ligne des boulevards, si brillamment éclairée alors par les appareils Edison. Jusqu'à lui montait le bruit des voitures circulant encore dans les rues et le roulement des trains sur les railways multiples qui rayonnent vers Paris. Robur le conquérant. Soudain, l'épouvante trembla comme frappée d'une violente secousse électrique. Toute sa charpente tressaillit, ainsi que tressaille la charpente humaine sous les décharges du fluide. L'appareil, atteint au milieu de son armature, se disloqua de toutes parts. L'épouvante venait d'être foudroyée, coup sur coup. Et ses ailes rompues, ses turbines brisées, elle tomba d'une hauteur de plus de 1000 pieds dans les profondeurs du golfe. Maître du monde.
Et on passe du nom de la précédente machine qui s'appelait l'Albatros. C'est un oiseau, c'est assez beau. On est encore dans quelque chose de vivant et l'Albatros se transforme en épouvante.
Tout à fait. D'ailleurs, elle ne s'appelle pas l'Albatros par hasard. Il est tout à fait probable qu'elle s'appelle l'Albatros avec une idée baudelairienne de Verne. L'Albatros, c'est la machine du poète. C'est aussi, en quelque sorte, une véritable poésie mécanique que cette Albatros. Et là, c'est devenu l'épouvante parce que, véritablement, Verne entend marquer... Bon, Maître du Monde est un roman très tardif dans sa production. Déjà, c'est vrai aussi de Robur, mais enfin Robur, c'est encore le milieu de carrière. Maître du Monde, on est vraiment tout à la fin. Il entend marquer véritablement en quelque sorte forcer le trait du pessimisme qui parcourait déjà son œuvre depuis le début. Rappelez-vous tout de même la fin de 20 milieux sous les mers avec ce Nautilus qui est à la fois une pure merveille et qui sert après tout à embrocher les navires.
Il y a quelque chose qui est très surprenant, par exemple, dans Le Maître du Monde, c'est que cette machine absolument surpuissante, son propriétaire ne s'en sert pas complètement. C'est-à-dire qu'il choisit la destruction de la machine, puisqu'il accepte de s'aventurer sous l'orage. Et donc, il y a peu de chance qu'il en réchappe, puisqu'elle est en plein fouet sous l'orage. Et donc, on comprend mal ce revirement.
Oh, c'est surtout une excellente métaphore de l'ivresse prométhéenne du savant. C'est-à-dire que effectivement, il va défier l'orage, il va défier l'éclair, parce qu'il veut montrer en quelque sorte sa supériorité. Et son châtiment, eh bien, c'est le châtiment de l'hubris. Il est allé trop loin dans la démesure, et c'est de cela qu'il meurt. Mais on peut tout à fait... il faut lire plutôt, même pas qu'on peut, c'est qu'il faut lire cette scène de façon symbolique et pas autrement, en quelque sorte. C'est-à-dire que... on ne peut pas dire que Robur ne soit pas maître de sa machine. Il n'est plus maître de lui-même. Il est peut-être maître du monde, mais il n'est plus, enfin, dans son délire, mais il n'est plus du tout maître de lui-même. Et il va au bout de son délire, qui fait que il veut incarner une puissance divine. Et bon, il est châtié pour cela.
Nous avouerons que l'étude des belles-lettres des langues anciennes, le français compris, se trouvait alors à peu près sacrifiée. Le latin et le grec étaient des langues non seulement mortes, mais enterrées. Il existait encore, pour la forme, quelques classes de lettres mal suivies, peu considérables et encore moins considérées. Paris au XXe siècle.
C'était le manuscrit mythique parce qu'il avait été perdu. Alors, il était connu, il a été retrouvé. Et quand il a été publié donc par Hachette, il a été vendu à 200 000 exemplaires, ce qui est un très très beau tirage pour Jules Verne, puisque de son vivant, les meilleurs tirages avaient plafonné à 100 000 exemplaires.
Cette salle, vous l'avez appris
Je n'aime que la liberté, la musique et la mer, puisque c'est... Cette phrase est considérée comme la devise de Jules Verne, la devise pour lui-même et aussi pour ses principaux héros, dont Capitaine Nemo.
La musique
Oui, il aimait beaucoup la musique par tradition familiale, parce qu'il était d'une famille où on avait toujours cultivé la musique. Il en a toujours fait lui-même. Quand il était...
De quel instrument
il jouait du piano. Quand il était jeune étudiant à Paris, il était prêt à se priver du nécessaire pour s'acheter un piano. Il y a des discussions un peu tendues avec son père, mais Jules Verne ne cède pas. La musique, on la retrouve dans ses romans, et tout particulièrement dans le Va milieu sous les mers, où le capitaine Nemo joue de l'orgue. La liberté, eh bien, c'est la devise et du capitaine Nemo et de Jules Verne, qui reste en fait dans son âme et dans son cœur sans doute quelque part un anarchiste. Et puis la mer, c'est son lieu de prédilection.
Sur le désir de ma femme, je me fixe à Amiens, ville sage, polissée, d'humeur égale. La société y est cordiale et lettrée. On est près de Paris, assez près pour en avoir le reflet sans le bruit insupportable et l'agitation stérile. Et pour tout dire, mon Saint-Michel reste amarré au crotoy. Lettre à Charles Valute.
Des ponts de bateaux, des bastingages, des hommes dans les bourrasques, des hommes sur les dunettes avec leurs lunettes, des banquises. On voit tout cela sur les gravures de la collection Hetzel. À Amiens, les enfants de l'école Edmond Rostand décryptent les images.
Il y a un éléphant. Est-ce que c'est ses rêves ici, puisqu'il y a des éléphants?
Il y a un globe.
Qu'est-ce que c'est ce globe?
C'est pour dire qu'il a fait le tour du monde en 80 jours.
C'est pour montrer les villes où il est allé. Mm-hmm. Pour voir qu'il a fait le tour du monde.
Ça se voit que c'est longtemps, ça fait longtemps qu'on l'a écrit parce que la photo elle est en noir et blanc.
Est-ce que tu crois que c'est une photo?
Non, c'est une image, c'est un dessin.
Il a dessiné à la plume.
Là, il y a tous les moyens de transport qu'il a fait dans le tour du monde. Il y a l'éléphant, il y a les bateaux, il y a le train. Là, il y a un autre bateau, on dirait.
Ça, c'est comme si c'était une image qui résumait toute l'histoire.
C'est vrai.
Exactement.
L'association du texte et de l'image persiste chez moi très fortement. Elle fait partie de ma lecture. Cette lecture d'enfance était beaucoup mieux qu'une bande dessinée, mais c'était presque en même temps une bande dessinée pour moi. Il y avait énormément d'illustrations superbes, celles de 5 semaines en ballon en premier. Les images s'incorporent au texte. Entretien Julien Gracq avec Jean-Paul De Kiss.
L'image accompagne réellement le texte, les rebondissements dramatiques, la visualisation des personnages. Et c'est en cela que Julien Gracq peut dire que, et je suis tout à fait d'accord avec lui, moi-même j'ai du mal à lire autrement que dans des Hetzel Jules Verne, parce que c'est un vrai bonheur de les lire comme ça, l'association du texte et de l'image qui, dans le cas de Jules Verne, est exceptionnellement forte. Je ne sais même pas si ce n'est pas l'exemple unique de cette manière-là dans l'histoire de l'édition.
Alors voilà les illustrateurs de Jules Verne, il y en a eu combien ?
Environ 5 ou 6 qui correspondent en fait à différentes époques des romans.
Nantes, Musée Jules Verne, Agnès Marcetto.
Et dont on voit le style d'ailleurs évoluer depuis le premier, qui est Édouard Rioux, qui illustre le voyage au centre de la Terre, jusqu'à l'illustrateur de la fin, qui est Georges Roux, et qui utilisait une technique qui à l'époque était toute nouvelle, qui était la chromotypographie, et qui donne ces compositions qui sont en fait assez modernes et qui correspondent au début du fin 19e, début du 20e siècle. Et puis au milieu, il y a un très très bon illustrateur qui a fait des illustrations assez belles, qui est Léon Bennett.
Ah, puis il y a une ville flottante aussi.
Une ville flottante, donc c'est le roman écrit par Jules Verne pour raconter sa traversée de l'Atlantique à bord du Great Eastern. Et ce sont des illustrations de quelqu'un qui s'appelait Ferrat et qui a été également l'illustrateur de Michel Strogoff, et qui est un illustrateur assez expressionniste et qui rend très très bien, dans le cas de Michel Strogoff, la fougue du cavalier, et dans le cas d'une ville flottante, le gigantisme du Great Eastern.
Alors celle-là, elle est très connue, c'est pour une illustration de la Terre à la Lune.
C'est l'illustration de Autour de la Lune, et c'est la seule fois qu'un illustrateur qui s'appelait Émile Bayard a travaillé pour Jules Verne et pour Hetzel. C'est un illustrateur qui a laissé libre cours à sa fantaisie et à son imagination, ce qui donne en fait des illustrations souvent assez surréalistes.
C'est très onirique.
Oui,
hein,
absolument.
Parce qu'on voit des petites étoiles comme ça, qui parsèment le dessin. Et puis alors là, il y a un animal
qui est le chien. C'est un des chiens embarqués à bord de l'obus Columbiade et qui est sacrifié pendant le voyage. Donc c'est son cadavre, en fait.
Qui flotte.
Oui, et qui est en train de rejoindre la Terre par la voie la plus rapide.
Alors celui-là, il est très très connu aussi.
C'est le capitaine Nemo en train de faire le point sur, pas sur le pont, mais sur la coque du Nautilus, par un dessinateur qui s'appelait De Neuville, et qui effectivement a prêté au capitaine Nemo les traits qu'on connaît tous.
C'est étrange parce que ce capitaine Nemo, il est très baraqué, hein. C'est un bel homme.
Oui, c'est un très bel homme. Alors, parmi les clés hein, du capitaine Nemo, on dit qu'un des modèles, c'était Hetzel.
Alors, au-dessus, c'est une exploration de la mine, non ?
C'est la descente au centre de la Terre, et c'est le passage du roman où Jules Verne explique qu'ils sont dans tout un environnement de mica et de schiste et qu'ils ont l'impression de cheminer à l'intérieur d'un diamant.
Et alors, en haut, ça, c'est la couverture de...
Voilà, c'est une autre dimension des illustrations des romans de Jules Verne. Ce sont tous les cartonnages. Donc, qui font partie de ces inspirations absolument géniales d'Hetzel, qui a fait créer pour l'ensemble de son, de sa production, mais tout particulièrement par Jules Verne, ces cartonnages qui sont des cartonnages illustrés. Celui-là est particulièrement beau, c'est celui qu'on appelle au steamer Jules Verne, et il est extrêmement fort symboliquement, puisque le bateau qu'on voit avancer s'appelle Jules Verne, la jetée s'appelle Hetzel, et on a derrière une évocation très très impressionniste en fait de ce qui est l'univers. On peut penser effectivement que ces cartonnages qui sont si beaux ont fait énormément pour le succès de Jules Verne, parce que c'était la première invitation à la lecture. Et ce qu'Hetzel voulait faire aussi avec ces cartonnages, c'est transformer ses lecteurs en collectionneurs. Puisque en fait, chaque année à l'époque des étrennes sortaient des nouvelles séries, et qu'alors même que vous aviez le roman, vous pouviez avoir envie de racheter un exemplaire avec une couverture nouvelle.
C'est lui, Jules Verne, et de beaucoup, le plus grand génie littéraire de tous les siècles. Il restera quand tous les autres auteurs de notre époque seront oubliés depuis longtemps. C'est d'ailleurs aussi monstrueux de le faire lire à des enfants que de leur faire apprendre les fables de La Fontaine si profondes que déjà bien peu d'adultes sont aptes à les apprécier. Lettre de Raymond Roussel à Eugène Léris.
Dans le musée Jules Verne, Aurélie, 11 ans, et Aloïs, 10 ans. Quel voyage extraordinaire!
Michel Strogoff, Le Tour du Monde en 80 jours, Les Enfants du Capitaine Grant, De la Terre à la Lune, c'est Les Aventures d'Hector Servadac dans le Monde Solaire, Le Château des Carpates, Les Indes Noires, L'Île Mystérieuse, Le 20 000 nuées sous les mers, Qu'est-ce qu'il y a encore? La famille Raton. Il y a un capitaine de 15 ans. Un jour, mon père, il est revenu avec un livre de Jules Verne sous le bras. Et puis, il m'a dit, bah, tiens, je vais te le lire ce soir. Parce que bah, j'étais petit. Et puis, il me l'a lu.
Qu'est-ce que c'était, ce livre?
Le Tour du Monde en 80 jours.
Et toi, Aurélie?
C'était les Indes Noires que j'ai lues.
Qu'est-ce que c'était, cette histoire?
Eh bien, en fait, ça se passe dans des mines. Il y a des personnes, ils sont obligés de quitter la mine parce qu'il paraît qu'il n'y a plus de charbon. Et 10 ans plus tard, deux personnes, dont l'ancien Overman et l'ancien directeur, ont retrouvé une trace. Donc, ils vont casser la pierre qui bloque la passe pour pouvoir aller la voir. Alors, ils sont dans une grande galerie et tout ça. Il y a plein d'avéoles différentes, une immense grotte. Alors, pour repartir, ils se perdent. Quelqu'un, ce qu'on découvre plus tard en réalité, a rebouché les tissus.
Le petit port de Granton ne contenait que 2 ou 3 bateaux de pêche que balançait doucement la houle du golfe. La brise calmissait aux approches du matin. L'atmosphère, nettoyée de brume, promettait une de ces délicieuses journées d'août que le voisinage de la mer rend plus belle encore. Une sorte de buée chaude se dégageait de l'horizon, mais si fine, si transparente, que les premiers feux du soleil devaient la boire en un instant. La jeune fille put donc observer cet aspect de la mer lorsqu'elle se confond avec l'extrême périmètre du ciel. « Tu n'es pas lasse ?» lui demanda-t-il après une demi-heure de marche. « Non, » répondit-elle. Mes pieds ne semblent même pas toucher à la terre. Ce ciel est si haut au-dessus de nous que j'ai l'envie de m'envoler, comme si j'avais des ailes. Les Indes Noires.
Là, on a parlé du feu, hein, c'est un élément important dans une lecture qu'on pourrait faire de l'œuvre de Verne. Est-ce qu'on peut parler de l'air ? Ça, c'est très important parce que ça suppose tout ce qui peut flotter, tout ce qui peut se mouvoir dans l'air et qui peut être léger. Et donc là, il y a un affrontement entre les partisans du léger et du plus léger, du plus lourd que l'air.
Oui, alors ça, c'est un débat qui parcourt le 19e siècle. C'est un débat que l'on retrouve chez Nadar, vous savez, qui était un des amis de Verne. Hein. Nadar, qui est à la fois celui qui va se manifester comme grand aérostier, hein, créer ce ballon géant qui s'appelle le géant, justement, et puis qui va plaider pour le plus lourd que l'air. Verne, comme Victor Hugo d'ailleurs, hein, c'est leur cas à tous les deux, sont tous les deux persuadés que l'avenir est au plus lourd que l'air. Alors, ma foi, je crois que là, il faut faire le partage entre le rêve et le côté pratique, hein, le raisonnement du scientifique pratique. Je crois que Nadar, Verne et Hugo sont des personnages suffisamment conscients pour se rendre compte que le plus léger que l'air se heurte à jamais au fait qu'il n'est pas dirigeable, en fait, hein, au problème justement de direction des plus légers que l'air. Donc, du même coup, ils prennent parti pour le plus lourd que l'air. Maintenant, il n'empêche que le ballon est l'occasion d'une gigantesque rêverie de la légèreté, une rêverie qui, par exemple, à la fin d'Hector Servadac, où on a une comète qui revient sur la Terre, un bout de comète qui avait été arraché de la Terre et qui revient sur la Terre, et pour éviter de mourir dans la collision, les quelques personnages qui avaient été emportés par cette comète vont avoir l'idée de s'élever en ballon, de façon à ce que leur ballon soit absorbé à nouveau par l'atmosphère terrestre. Bon. On voit bien comment le ballon, c'est quelque chose qui est tout à fait euphorique, qui est tout à fait léger et qui incarne bien ce désir d'envol, ce désir d'envol d'être porté, non pas d'envol volontaire, justement, comme le plus lourd que l'air, mais au contraire, une sorte d'ivresse d'être emporté, d'euphorie, qui prend le savant et qui lui donne une expérience de la légèreté absolue. Donc, il y a bien cette rêverie de la légèreté dans les ballons, mais cette rêverie de la légèreté est à couper du raisonnement scientifique qui fait que Verne prend parti pour le plus lourd que l'air.
Vous dites, Christian Schellbourg, que Jules Verne est très fortement imprégné de romantisme.
Oui, alors ça c'est très net notamment dans 20 milieux sous les mers, hein, où la scène des poulpes est entièrement inspirée des travailleurs de la mer de Victor Hugo, de la lutte de Gilliatt contre la pieuvre. On peut dire également que probablement le Niagara de Maître du Monde est un peu là grâce à Chateaubriand. D'une manière générale, Verne est un bon lecteur du romantisme, c'est un grand admirateur de Victor Hugo. Et je dirais que ça rejaillit également sur sa vision de la politique. Ça rejaillit moins nettement sur sa vision du progrès. Alors, on peut détailler un peu les deux choses. Pour ce qui est du progrès, Verne n'a pas, contrairement à Victor Hugo, la vision progressiste. Venant probablement plus tard dans le siècle, encore qu'ils sont contemporains pendant toute une période, il a plutôt une vision des dangers que présente le progrès. Ça, c'est vraiment très marqué chez lui. Maintenant, sur le plan de la politique, Verne est quelqu'un qui est avant tout partisan de la liberté et qui la pratique pour lui-même. On a notamment un roman qui s'intitule En Magellani, qui est un des romans posthumes qu'on connaît maintenant dans son texte original, mais qui a été longtemps dénaturé, publié dans la version dénaturée par le fils Michel Verne, sous le titre Des naufragés du Jonathan. Et véritablement, dans Magellanie, on a en quelque sorte le point de vue de Verne sur la politique et sur ce qu'est un homme politique, avec une idée fondamentale, c'est qu'il faut donner le pouvoir à des gens qui sont indifférents. C'est-à-dire que il faut absolument que, pour éviter toute tyrannie, éviter de confier le pouvoir à ceux qui le recherchent. Hein. Et là, se rencontre en quelque sorte l'amour de Verne pour la liberté, pour une espèce d'affranchissement de l'homme de toutes les contraintes. Ça peut être aussi bien les contraintes justement que la nature nous oppose. Cette fois-ci, c'est tout l'imaginaire de l'euphorie scientifique qui parcourt tout de même son œuvre, hein. Et puis également le libérer des contraintes qui sont des contraintes, cette fois-ci, sociales.
Là commençait l'escalier aérien gardé par une frêle rampe et dont les marches de plus en plus étroites semblaient monter vers l'infini. « Je ne pourrai jamais !» m'écriai-je. « Serais-tu poltron par hasard ?»« Monte !» répondit impitoyablement le professeur. Force fut de le suivre en me cramponnant. Le grand air m'étourdissait. Je sentais le clocher osciller sous les rafales. Mes jambes se dérobaient, je grimpais sur les genoux, puis sur le ventre. Je fermais les yeux, j'éprouvais le mal de l'espace. Enfin, mon oncle me tirant par le collet, j'arrivais près de la boule. « Regarde !» me dit-il, et regarde bien, il faut prendre des leçons d'abîme. Voyage au centre de la Terre.
Il est un défenseur de l'école laïque.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ça, c'est un grand défenseur de l'école laïque et de la logique de Jules Ferry, en quelque sorte. Là encore, hein, c'est la filiation hugolienne, hein, c'est-à-dire que il travaille pour l'éducation. Ce jeu de cette double appellation de la collection d'Hetzel pour l'éducation et la récréation, hein, le magasin d'éducation et de récréation, c'est véritablement le programme que se fixe Verne. Il s'agit, à proprement parler, d'éduquer le peuple pour le faire progresser, pour l'inviter à progresser, et son œuvre, dans ce sens, diffuse cette philosophie de l'école laïque, à savoir que, d'une part, le savoir nourrit son monde, et que, de l'autre, il faut partir à la conquête du savoir, et là, on est dans la filiation positiviste, il faut apprendre au maximum de façon à pouvoir dominer toujours plus la nature, apprendre au maximum, dominer toujours plus, et puis se heurter au final aux limites qu'impose la nature.
Est-ce que Jules Verne parle de Dieu d'une certaine façon, ou de plusieurs façons dans ses œuvres ?
Oui, alors sur Dieu, il y a une position relativement ambivalente. Hein. On a notamment dans En Magellanie, où le personnage se réclame au début de la devise anarchiste « ni Dieu ni maître ». Par contre, il se dissocie très fortement des anarchistes inféodés au mouvement violent de l'époque, mais ce personnage qui a effectivement lui-même reprend cette devise, ce personnage à la fin, ma foi, a un geste qui est un geste religieux. Moi, je crois que dans Les Voyages extraordinaires, la religion est importante, la religion évidemment chrétienne et catholique, seulement il n'apparaît pas, à mon avis, qu'elle soit véritablement profonde chez Verne. C'est tout à fait un postulat bourgeois d'époque. Et à ce titre-là, le thème est naturellement convoqué dans de la littérature pour adolescents et pour enfants. Donc c'est parfaitement naturel. En revanche, très souvent, Dieu apparaît comme une sorte de truc narratologique pour expliquer l'inexplicable. Donc moi je dirais que en quelque sorte Verne est religieux ou croyant dans le sens bourgeois du terme. C'est-à-dire qu'il est à cet égard complètement conformiste, mais très clairement tenté, par amour de la liberté, sans doute totalement tenté par cette option anarchiste idéalisée, hein, c'est-à-dire un anarchisme intellectuel qui n'est pas du tout un anarchisme d'action politique, qui est une sorte d'anarchisme à titre individuel, hein. Et à cet égard, il est tenté quand même par le côté ni Dieu ni maître, le côté de l'individu totalement autonome, totalement maître de lui-même et de son destin, ce qui est d'ailleurs une des grandes caractéristiques des héros majeurs, comme le capitaine Nemo ou comme Rebure le Conquérant.
Préparez-vous à partir.
À partir, monsieur ?
Sur les champs.
Pardon, monsieur.
Mais vous avez bien dit à partir.
D'ici 20 minutes,
oui.
Est-ce que monsieur part en voyage?
Oui, nous allons prendre le train pour Douvres.
Douvres?
Et en route pour le tour du monde.
Du monde? Le tour du monde, monsieur?
En 80 jours ou moins.
Mais monsieur, est-ce que je dois préparer des malles?
Non, pas de malles. Ce sac de nuit, simplement. Deux chemises, deux pantalons, trois paires de chaussettes pour moi. Autant pour vous, nous achèterons ce dont nous aurons besoin en route. J'espère que vous avez de bonnes chaussures. Il est possible qu'on ait à marcher. Comme nous partons dans 19 minutes, je vous conseille de tout préparer rapidement.
Je suis prêt, monsieur.
Jean-Paul de Kiss, vous avez écrit une biographie de Jules Verne, et vous l'avez appelé Jules Verne l'Enchanteur.
Alors ça, c'est le titre est venu de l'éditeur et a été renforcé pour s'arrêter sur ce titre-là par une blague que j'avais envie de faire par rapport à Marcel Gauchet qui avait donc fait un livre sur le désenchantement du monde et un livre très fort qui fait partie des 10 premiers livres dans ma bibliothèque. Et donc, c'était une manière de réponse à une blague. Mais bien évidemment, ça va au-delà. Jules Verne, l'enchanteur, l'enchantement ne s'oppose pas à la réalité. C'est-à-dire qu'il y a dans l'immanence même une forme de transcendance, sans aller jusqu'aux formes extérieures, donc de la transcendance, mais il existe un besoin humain de se sentir au-delà de soi-même, qui est distincte de l'au-delà religieux tel qu'on a pu l'enseigner avec le christianisme, par exemple. Donc, l'enchantement, pour moi, correspond à ça, et il correspond, si je me suis attaché à Jules Verne, c'est qu'il me semble que Jules Verne, sur l'ensemble de ses 62 romans qui composent Les Voyages Extraordinaires, ne parle pratiquement que de ça. C'est-à-dire que toute cette aventure humaine qu'il décrit roman après roman, aventure après aventure, voyage après voyage, converge vers un seul but, c'est comment rêver sur cette planète.
Un coup de sifflet m'interrompit. Qu'est-ce donc ? Demandai-je. C'est la machine à téter qui fonctionne, répondit mon docteur. Elle est de la force de 500 Normandes. Vous comprenez bien, cher client, que depuis le célibat, il a fallu inventer l'allaitement à vapeur. Oui. Tout avait changé en ce monde. Tout avait suivi la voie du progrès. Idées, mœurs, industrie, commerce, agriculture, tout s'était modifié. Je viens de faire un rêve dans la ville d'Amiens, en l'an 2000. Une ville idéale.
Jean-Paul de Kiss, on n'a pas parlé des voyages de Jules Verne, ces voyages réels dans le monde qui sont finalement minorés par rapport à l'existence et à la réalité de ces voyages dans l'imaginaire.
Pour quelqu'un de son époque, Jules Verne a largement plus voyagé que la moyenne des gens, et même que la moyenne, des intellectuels de son temps. Bien sûr, on a les grands voyages de gens comme Stendhal, Delacroix, etc. Mais Jules Verne a quand même navigué pendant 20 ans en mer à raison de entre 1 et 3 mois par an, qu'il a fait les mers du Nord, qu'il a fait les côtes d'Angleterre à plusieurs reprises, les côtes de France, deux grands voyages en Méditerranée, et qu'auparavant, avant d'avoir ses bateaux, il a quand même traversé l'Atlantique sur le plus grand paquebot de l'époque, qui était le Léviathan, et qu'il a y compris fait un voyage sur un cargo jusqu'en Scandinavie, qu'il a été également sur un cargo jusqu'en Écosse, donc cela avant d'avoir ses propres bateaux. Et c'est vrai que cet univers maritime, bien sûr ça inclut les escales, mais cet univers maritime est plus présent chez lui, est plus fort chez lui que les voyages terrestres. Mais on a y compris ici dans la collection qu'on expose les carnets de voyage de son dernier voyage en Méditerranée, qu'il a interrompu après il a eu très peur parce qu'il a failli faire naufrage, donc il a eu très peur, il a débarqué en Sicile et il a remonté toute l'Italie en chemin de fer et il s'est arrêté, il a eu de nombreuses étapes et il a un carnet de voyage de ce voyage en Italie et qui est en même temps très drôle parce qu'il est caustique quand il est à Rome devant une sculpture du Bernin, il dit simplement elle fait 3 pieds 6 pouces de haut, c'est le seul commentaire. Bon, mais c'est vrai que c'est ce genre d'humour est très courant chez lui, on le retrouve dans les romans.
C'est l'humour de Phileas Fogg.
cette forme de décontraction par rapport à la réalité, on parlait tout à l'heure de l'enchantement, et c'est tout à fait ça. L'enchantement, c'est aussi un décalage par rapport à la réalité, une capacité de prendre un peu de recul par rapport à cette réalité. C'est la raison pour laquelle, à certains moments, moi, je fais y compris la comparaison avec les thèses que défend dans ce domaine beaucoup plus tard, après lui, Bertolt Brecht, sur la distanciation. Parce que c'est vrai que chez Jules Verne, il y a de toute évidence une véritable distanciation, et que là aussi, il est précurseur par rapport à toute une conception de la manière d'écrire et de la relation à son lecteur. L'intelligence, chez Jules Verne, la relation d'intelligence à son lecteur est même prioritaire, je dirais, à sa relation émotive. C'est-à-dire que on a souvent dit qu'il manquait de psychologie et que Jules Verne manquait d'émotion. C'est pas vrai du tout. Ces émotions sont placées différemment et elles sont placées en regard d'une relation d'intelligence à son lecteur parce qu'il cherche avant tout à faire évoluer son lecteur dans un monde de connaissances.
Mes lecteurs sont mes passagers. Et mon devoir est de veiller à ce qu'ils soient bien traités pendant la traversée et satisfaits à leur retour. Jules Verne, 1869.
L'œuvre de Jules Verne, elle est connue dans le monde entier, peut-être plus ailleurs qu'en France, ailleurs dans le monde qu'en France. Quelle est la fortune de Jules Verne actuellement, universellement ?
J'ai pas fait de statistiques. Ce que je peux vous dire, c'est ce que je vois en voyage. J'étais récemment à Oslo, dans une librairie du centre-ville, tout à fait une grande librairie. Je vois bien placé dans un rayonnage 5 éditions récentes de 5 romans de Jules Verne en norvégien. L'année dernière, dans une librairie de Budapest, j'ai vu qu'on venait d'éditer les œuvres complètes de Jules Verne en hongrois. Les romans majeurs sont édités dans tous les pays du monde encore aujourd'hui. Donc il reste une référence par rapport à une morale d'éducation, je dirais, à une universalité dans l'éducation, dans la conception de l'éducation. Et il est aussi porté par le fait que, ayant écrit des romans qui se passent sur de nombreux territoires du monde entier, eh bien à chaque fois ces territoires, ces pays s'appuient sur ces romans-là, et donc il y a toujours un point d'appui. Donc ce qui fait que Jules Verne continue d'être édité dans les statistiques de l'UNESCO au début des années 80, il était encore le troisième écrivain le plus édité dans le monde après Lénine et la Bible. Donc Lénine pour des raisons historiques du moment, et puis la Bible pour cette universalité de la Bible. Mais c'est quand même quelque chose de marquant. Et aujourd'hui, sans faire de statistiques, on peut voir que nous, on le sait parce qu'on a quand même le retour en ce qui concerne le théâtre, par exemple, qu'on a dans l'année une dizaine d'adaptations au minimum de ce qui nous revient à nous, une dizaine d'adaptations au théâtre de romans de Jules Verne ou des pièces qui ont été adaptées, du Tour du monde en 80 jours, des Enfants du capitaine Grant, de Michel Strogoff, qui continuent d'être montées et jouées dans des styles extrêmement divers, aussi bien dans le style grand spectacle comme on a vu encore il n'y a pas très longtemps au Châtelet, que dans le style comme j'ai vu récemment à Antony, d'un spectacle beaucoup plus intimiste mais quand même très spectaculaire, du Tour du monde en 80 jours. Donc Les exemples se sont nombreux, et là, il y a depuis quelques années un léger creux en ce qui concerne le cinéma. En revanche, on a continué de voir des adaptations à la télévision pratiquement régulièrement, un peu partout dans le monde, et qu'aujourd'hui, on en est à recenser au total au moins 120 films de long métrage de cinéma qui ont été faits d'après l'œuvre de Jules Verne, et au moins autant d'émissions de télévision, et encore une fois autant, enfin d'émissions de télévision de téléfilms, et encore une fois autant d'émissions faites sur Jules Verne pour la télévision. Donc on a une bonne matière qui permet de faire évoluer dans le temps et d'accompagner, nous, ici dans la maison de Jules Verne, d'accompagner dans le temps toute cette évolution de la perception de Jules Verne. Et ça, c'est vraiment international. Et cette qualité internationale, elle nous pousse encore plus à réfléchir cette relation de l'œuvre à son évolution. Bon, je citais tout à l'heure Starobinsky, mais c'est vrai que on se sent nous très proche d'accompagner l'évolution de la lecture aussi. C'est-à-dire, Jules Verne lu au XIXe siècle, ce n'est pas Jules Verne lu aujourd'hui. Ce que j'ai défendu dans Jules Verne l'Enchanteur, c'est de prendre en compte la dimension de la totalité de l'œuvre, de prendre sa dimension en compte, sa dimension, je dirais, presque philosophique, et à partir de là, de proposer de nouvelles lectures. D'ailleurs, on le voit très bien, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas tellement la jeunesse qui lit Jules Verne, beaucoup plus les adultes.
On m'a dit que vous étiez né en Sibérie.
Oui, mon colonel.
À partir de ce jour, et jusqu'à nouvel ordre, vous n'êtes plus le capitaine Michel Strogoff. Nous suspectons l'ennemi d'avoir des espions un peu partout.
Combien de jours pour atteindre Irkoutsk?
En temps normal, il faudrait environ 3 semaines.
Hélas, nous ne sommes pas en temps normal, capitaine. Les Tartares occupent maintenant toute la province de Semipalatinsk. Une grande partie de votre voyage devra s'effectuer, si j'ose dire, au nez et à la barbe de l'ennemi.
Je connais ce pays mieux que personne, Excellence.
Voici une lettre de Sa Majesté impériale à son frère, le Grand-Duc. Vous devrez lui remettre cette lettre en main propre. Est-ce clair?
Oui, Excellence. Vos nouveaux papiers. À partir de ce moment, la vie du Grand-Duc et le sort de toutes les provinces orientales dépendent uniquement de votre succès. Bonne chance.
Et que Dieu vous protège. Ainsi que la Sainte Russie.
Jean-Paul de Kiss, vous avez vu un très très ou deux très beaux films sur l'œuvre de Jules Verne, enfin sur des romans, à partir de romans de Jules Verne.
À partir de romans de Jules Verne, moi, il y a tout de suite deux titres qui me viennent en mémoire, deux films, qui sont Le 20 milieux sous les mers, fait par Fleischer aux États-Unis, produit par Walt Disney au début des années 50, et puis un peu plus tard, dans les années 60, le film de Karel Zeman, fait en Tchécoslovaquie, donc à partir de plusieurs romans qu'il a rassemblés. Il a utilisé les gravures comme toile de fond à ses personnages. C'est un travail de beaucoup plus graphique et très inventif, pour citer deux exemples dans des genres très différents. Mais on peut aussi s'arrêter parfois sur des séries télévision, des émissions de télévision. Moi, je me souviens que le Michel Strogoff avec Daniel Hivernel, moi, a marqué mon enfance de manière très forte. Donc, produit par Claude Santelli, moi, m'a marqué très fort. C'est pas que le cinéma. Et donc, on est en train de réfléchir à mettre en place ici à Amiens un véritable espace Jules Verne et le cinéma, ou qu'on pourrait appeler les fabuleux voyages de Jules Verne au cinéma. Mais bien sûr, ça inclut la télévision. Il faut pas perdre ça de vue. On a beaucoup d'enquêtes à faire, de recherches à faire, documentaires, pour maintenant répertorier ce qui a été fait. D'ici un an, je vous en parlerai de manière plus aboutie, parce qu'on aura terminé ce tour d'horizon en ce qui concerne les films, et je les aurai vus.
Comment vous l'imaginez, le capitaine Nemo? Quel acteur vous verriez
aujourd'hui? Aujourd'hui, Nemo. Donc Nemo est un personnage révolté.
Inquiétant.
Il est inquiétant. Et vous me posez une colle.
Moi, je voyais Malkovich.
Justement, c'est, moi, je ne serais pas d'accord avec Malkovich, parce qu'il y a, dans les personnages qu'on fait jouer à Malkovich, donc une perception aujourd'hui de ces personnages qui inclut une perversité. La question, c'est que chez Nemo, il n'y a pas une once de perversité. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à vous répondre, parce que il faut... écoutez, à la limite, moi, je préférais Bruce Willis.
Voici quelques-uns des ouvrages consultés pour cette émission. Jules Verne, l'Enchanteur, de Jean-Paul de Kiss aux éditions du Félin. La revue Jules Verne, consacrée à Julien Gracq. Jules Verne, L'œil et le ventre, de Christian Schellbourg, à la Bibliothèque des Lettres Modernes. De Michel Serres, Jouvence sur Jules Verne aux éditions de Minuit. De Paul-Louis Rossi, La voyageuse immortelle, Le temps qu'il fait. Une vie, une œuvre, Jules Verne, par René Elkaïm-Bollinger. Avec Paul-Louis Rossi, Agnès Marcetto, Jean-Paul de Kiss, Christian Schellbourg, Aloïs et Aurélie à Nantes, et les élèves de l'école Edmond Rostand à Amiens. Texte lu par Fred Personne et Arnaud Bédoué. Mixage Bruno Martin, Ludovic Asselot. Réalisation Véronique Villa.
Cette émission a été diffusée le 12 août 2001 sur France Culture.